Rencontre spirituelle aujourd'hui sera question du fameux père Victor Lelièvre, un oblat de Marie-Immaculée qui était un prédicateur incroyable qui pouvait rassembler jusqu'à 50 000 personnes et on dit même 100 000. Grand prédicateur populaire québécois dans un sens, bien qu'il soit né en Bretagne. Le père Lelièvre, c'est vraiment un phénomène religieux, pour ainsi dire unique dans l'histoire du Québec. Il y a eu aussi le père Mathéo Crolet-Beauvais, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce sont deux apôtres du Sacré-Cœur. En tous les cas, c'est vraiment ça, un phénomène religieux. On peut dire que l'Église de Québec, puis l'Église du Québec aussi, il y a quelques années, puis pour plusieurs dizaines d'années, même a vu apparaître, donc cet homme extraordinaire. Il était, selon les gens qui l'ont vraiment connu, il a un prêtre zélé, un prédicateur éblouissant aussi, simple, un apôtre conquérant, un réveilleur. C'était évidemment un animateur aussi, puis un entraîneur remarquable, et selon la formule traditionnelle, un pêcheur d'hommes, hein, à tel point que presque tous ceux qui l'ont connu, que ce soit les évêques, les prêtres, les laïcs, les religieux, les religieuses, ont subi son influence. Il a marqué son époque et sa génération. Oui, le père Lelièvre, chez nous, ici, au Québec, c'est un phénomène religieux. C'est même, on pourrait dire, une page d'histoire. Victor Lelièvre est né en Bretagne le 4 mars 1876. Et il est décédé à Québec, il avait près de 80 ans, le 29 novembre 1856. Il avait, en fait, 80 ans. Physiquement, il en imposait par des épaules très larges. Il avait une forte carrure, c'était un gars décidé. Une démarche un peu lourde, mais solide. Un breton. Sa tête, il est né à Vitré, hein, c'est près de Rennes, en Bretagne. Sa tête ronde, qui était comme, quand on voit ça sur les photos, est comme percée de deux yeux, des petits yeux vifs, pleins de vie aussi. Et sa tête reposait directement sur ses épaules, comme s'il n'y avait pas eu vraiment de coups. Sa voix était plutôt grêle. Puis, elle exprimait tantôt la puissance et la force, et tantôt la douceur, puis la bonté. Comme le curé d'Ars, le père Victor Lelièvre n'était ni vraiment un savant, ni un lettré, mais on reconnaissait en lui l'homme de Dieu. Mais il connaissait très bien la Bible quand même. Il connaissait très, très bien les évangiles qu'il savait par cœur. Et il s'est mis, quand il est arrivé à Québec, chassé par la loi Combes, qui chassait tous les religieux et les religieuses de France. Il est arrivé en 1903, à l'âge de 27 ans, cet oblat de Marie-Immaculée, puis il se met à prêcher l'évangile à temps et à contre-temps, comme on dit. Hein. C'est vraiment à temps et à contre-temps qu'il l'a prêché. C'est incroyable. C'était un orateur puissant. Il sait mettre en œuvre la devise des oblats. Quelle est-elle? C'est très beau, hein? Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Sa foi profonde, oui, il y avait une foi profonde, enthousiaste, qui rien ne l'empêchait de croire, on pourrait dire. Ça lui permet chaque année de rassembler des foules immenses, comme je vous ai laissé entendre tout à l'heure, et de faire marcher, comme on dit, la ville de Québec pour la fête du Sacré-Cœur. C'est à ce moment-là, la fête du Sacré-Cœur qui réunissait des foules immenses. Il y a des photos de ça. C'est immense, des foules, 50 000, d'autres 10, 100 000. Il connaît à fond donc son évangile, puis il peut tout aussi bien intéresser pendant des heures des ouvriers, des jeunes gens, que des prêtres, des religieuses cloîtrées même, ou n'importe qui d'autre. Hein. Son père est menuisier, au moment de sa naissance. Ils habitent un quartier pauvre, donc, à Vitry, près de Rennes. À 17 ans, le jeune Victor Lelièvre gagne sa vie dans un atelier d'imprimerie. Et puis, il n'a pas vraiment d'instruction. Il lui arrive même, dit-on, au lieu d'écrire l'encyclique du pape, il écrit la bicyclette du pape, comme quoi il souffre de dyslexie ou je ne sais trop quoi, mais vraiment, il est très en retard à 17 ans. Et c'est à cet âge que lors d'une retraite paroissiale, il rencontre un père oblat qui découvre en lui une vocation sacerdotale, car souvent, les prêtres sont engendrés par d'autres prêtres. Vous savez que si on n'interpelle pas les jeunes gens, si on leur suggère pas de penser comme ce jeune homme à devenir prêtre, souvent ils osent pas trop se décider. Ça prend peut-être une petite poussée qui vient de l'Esprit-Saint par quelqu'un comme un prêtre qui sent ça. Plus d'une pièce, le jeune Victor Lelièvre se donne sans compter. Alors il accepte 10 années d'études. C'est long de devenir oblat de Marie-Immaculée. 10 années d'études laborieuses. Il travaille ardemment sa formation spirituelle. C'est un vrai breton. Faut dire qu'il part de loin. Ça lui prend 10 ans. Devenu prêtre, jeune prêtre, le père Lelièvre est plutôt timide. C'est surprenant. On pourrait croire qu'il était déjà extrêmement décidé, mais non, il est plutôt timide. À son premier sermon, sa pauvre mère, cachée derrière une colonne, égrène son chapelet de peur que son prêtre bioque dans son discours, ce qui, chose surprenante, le rend éloquent et fécond. C'est une recette. Retenez bien cette recette. Une recette que lui donne un jour son supérieur, oblat de Marie-Immaculée, et qui se résume en 3 mots. Prêcher l'Évangile. C'est ce que le Concile Vatican II nous demande. On doit, chez les prêtres, moi je ne suis pas prêtre, je suis laïque, mais c'est ça qu'on appelle une homélie. C'est la prédication qui se rattache à la lecture qui vient d'être faite de l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Et il ajoutait, prêcher le Sacré-Cœur. Je vous ai souvent parlé du Sacré-Cœur encore tout récemment. Parce que le Sacré-Cœur, ce n'est pas qu'une petite dévotion. C'est une très grande dévotion où le cœur brûlant de Jésus nous est manifesté à travers des révélations, mais aussi sur la croix quand le centurion transperce le corps de Jésus mort. Du côté droit, puis il atteint le cœur et le sang et l'eau en sortent. Et comme je vous disais il y a quelques jours, c'est là qu'on peut dire que l'Église se fonde, s'établit, dans cet amour qui jaillit de son cœur, dans l'âme qui est le sang, selon la conception juive, le sang c'est l'âme. Et le troisième conseil, c'était très beau aussi, prêcher la miséricorde, à une époque où on pensait pas tellement prêcher la miséricorde. C'est là, tout à fait, le thème unique, si on pourrait dire, de toute la prédication du père Victor Lelièvre pendant plus de 50 ans. L'Évangile, le Sacré-Cœur, la miséricorde. Les statues du Sacré-Cœur qu'on voit au Québec un peu partout devant des églises viennent souvent du fait qu'il était passé par là et qu'il a prêché le Sacré-Cœur et on a construit, on a édifié ces grandes statues du Sacré-Cœur, qui sont toujours un peu les mêmes, où le Christ ouvre les bras et son cœur brûlant nous invite à répondre à son amour. En 1901, vous savez qu'il y a eu la fameuse loi Comble, là, dont je vous ai parlé. Les congrégations religieuses sont dissoutes. Dissoutes, c'est pas des farces. Elles sont chassées de France, et là, le jeune père Lelièvre, avec quelques confrères aux oblats, parce qu'il n'est pas arrivé seul, il était arrivé avec quelques confrères, puis il s'exile ici, dans notre pays, puis cet événement tourne, pour nous, Québécois, en une bénédiction. Quand on y pense, c'est comme si la Providence lui réservait ici, au Québec, une carrière des plus fécondes. Il a 27 ans quand il arrive. Hein, puis on le nomme vicaire à la paroisse Saint-Sauveur de Québec. Dans ce temps-là, cette paroisse était la plus populeuse de la ville. Elle comprenait, en plus du Saint-Sauveur d'aujourd'hui, le territoire actuel de la paroisse Sacré-Cœur, de celle de Notre-Dame-de-Grâce et de celle de Saint-Joseph à Québec. Pour un jeune prêtre ardent et zélé, il y a de quoi s'occuper, c'est grand. Et sous son impulsion, il y a toutes sortes d'œuvres qui apparaissent. Ça lui prend pas de temps. Voici l'œuvre de jeunesse, comme il l'appelle. Ensuite, le journal « L'étincelle du Sacré-Cœur ». Puis aussi, la Saint-Vincent-de-Paul des jeunes, c'est une bonne idée, ça, la Saint-Vincent-de-Paul des jeunes. On avait ça à Brébeuf avec le père Gustave Lamarchi, qui nous entraînait dès l'âge de 12, 13, 14 ans à aller visiter les pauvres, leur apporter des choses. Parce que dans le temps de... où est arrivé le père Lelièvre à Québec, il y avait beaucoup de pauvres dans ce quartier-là. Et le gagne-pain d'à peu près tout le monde, bien, ce sont les manufactures. Dès 1904, l'année après son arrivée, le père Lelièvre recrute quelques femmes, puis il organise l'adoration du Très-Saint-Sacrement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se fait maintenant en Italie, aux États-Unis. C'est très productif, alors que ça n'a l'air de rien. C'est que depuis 9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, le Saint-Sacrement est exposé. Il y a un groupe, continuellement, qui prie devant Saint-Sacrement. Comme quoi la prière est efficace quand elle vient de cœurs qui sont pleins d'amour. Et alors, les hommes sont là aussi, n'est-ce pas? Il faut les atteindre sur place. Alors, ce jeune prêtre, Victor Lelièvre, apparaît au milieu des ouvriers en salopette, imaginez. C'est incroyable à cette époque-là. Il parle leur langage, il les fait rire aussi, car il y a beaucoup d'humour. Il a surtout des mots encourageants, qui leur vont droit au cœur. Alors les gars commencent à se dire entre eux, « Hey, ça c'est notre prêtre à nous autres. » Et ces ouvriers feraient n'importe quoi pour lui. Voyant que le père Lelièvre s'est fait des centaines d'amis, voyant qu'il s'est fait plutôt de centaines d'amis, bien, il propose les heures saintes ouvrières à ses ouvriers. Les heures saintes, à peu près dans ces termes-ci, c'est à peu près ce qu'on raconte qu'il leur a dit, « Mes bons amis, oui, mes bons amis, vous êtes tous de braves cœurs. Je vous invite à venir entendre le Sacré-Cœur chaque vendredi, premier vendredi soir à 6 heures, premier vendredi du mois, premier vendredi soir à 6 heures, tout de suite après la fermeture des manufactures. Venez comme vous êtes là, en habit d'ouvrage. » Il ajoute, je trouve ça extraordinaire, « C'est pas des mains nettes que je veux, c'est des cœurs propres. » Alors les ouvriers, chose surprenante, accourent par centaines, et bientôt par milliers. Par milliers, oui, il y en avait souvent 2000. Le père Lelièvre ouvre son évangile, puis il fait parler le Sacré-Cœur. Puis la foule des ouvriers chante à défoncer les toits, les confessionnaux regorgent de pénitents. Le bon peuple de Québec est enthousiasmé par cette religion nouvelle, ça leur semble nouveau. Puis les prêtres des alentours viennent examiner le prodige. Puis à leur tour, bien évidemment, ces prêtres s'embrigadent au service de la classe ouvrière. Et là, le vieux Saint-Sauveur, ce vieux quartier de Québec, devient une paroisse fervente, un centre de piété, où l'on prie presque jour et nuit, et qui, en quelques années, rayonne à travers tout le Québec, un peu partout sur la côte de Beaupré, comme dans la Beauce et dans Portneuf, à Trois-Rivières, comme à Sherbrooke et à Montréal, les curés puis les foules réclament le père Victor Lelièvre, qu'on surnomme déjà l'apôtre du Sacré-Cœur. Nous allons entendre maintenant une œuvre de Marcel Dupré, qui est mort en 1971, extraite du tombeau de Titlouse. Titlouse, c'est un chanoine, le chanoine Titlouse, qui était organiste. Alors, comme Rameau a écrit, composé le tombeau de Couperin, Marcel Dupré a composé le tombeau de Titlouse. C'est interprété par Jacques Boucher sur les orgues de l'église Notre-Dame à Mortagne, dans le Perche. Alors, on voit que le père Victor Lelièvre est demandé partout par les prêtres. Mais où prend-il le temps? Comment il fait pour répondre à toutes les invitations? C'est incroyable. Il est partout à la fois. Et puis, sur son passage, on voit s'élever, comme je vous ai dit, d'innombrables monuments au Sacré-Cœur de Jésus. Personne ne peut résister à son slogan. Qu'est-ce que c'est? Aux hommes célèbres, dit-il. On dresse un monument. Or, le Sacré-Cœur mérite le sien, il me semble. C'est le plus célèbre des hommes. C'est l'homme-Dieu. Et c'est comme ça qu'on a tous ces Sacré-Cœurs d'un bout à l'autre du Québec. Un apôtre de cette trempe, on l'imagine facilement, ne se laisse pas arrêter par un obstacle lorsqu'il s'agit de gagner une âme à Dieu. Il rencontre un jour sur la rue une bonne dame dont le mari travaille comme chauffeur de locomotive. Et elle lui dit, « Si jamais, mon père, vous rencontrez mon mari, que vous connaissez bien, tâchez donc de le convaincre de faire ses Pâques. » Il prétend toujours qu'il n'a pas le temps. Alors, quelques jours plus tard, le père Lelièvre attend le train sur le quai de la gare à La Pérade, Saint-Anne-de-la-Pérade. Durant les quelques minutes d'arrêt, le père reconnaît son homme qui est perché dans la locomotive comme sur un cheval d'acier, hein, puis il lui dit, « Arthur, Arthur, laisse-moi donc monter avec toi dans la locomotive. » Et hop, voilà le père Lelièvre qui gravit les degrés de l'échelle, puis dans le temps de le dire, il se trouve aux côtés de son homme. Là, le train part. Arthur chauffe la chaudière de sa locomotive. Entre deux pelletées de charbon, notre père Oblat, le père Lelièvre, chauffe à blanc la conscience d'Arthur, lui. Au lieu de chauffer avec la locomotive, il chauffe la conscience. Puis, il jette la conscience d'Arthur, si on peut dire, dans la miséricorde du Sacré-Cœur de Jésus. Puis, le type se confesse, et deux jours plus tard, cette même locomotive bascule accidentellement dans une rade du port de Québec. Elle entraîne dans la mort ce pauvre Arthur, le pénitent de l'avant-veille. On peut dire que la prédication du père Lelièvre fait fureur par son message surnaturel, mais aussi par sa force persuasive. Il est d'une éloquence qui surpasse vraiment l'ordinaire. On trouve rarement, en dépit de sa voix un peu claire, une voix aussi chaude. C'est comme un miracle. Il a un souffle intarissable. Son accent est vibrant, vibrant sincérité. Et le père Lelièvre, il est tendre. Il est même onctueux parfois. Il est émouvant. Il joue avec aisance et finesse sur toute la gamme des sentiments. Et il a une grande qualité. Il est surtout d'une clarté facile. On comprend tout ce qu'il dit. Il n'emploie que des mots à la portée des gens ordinaires. Il parle sans regarder l'horloge. D'ailleurs, son auditoire perd la notion du temps quand il parle. Les sermons de 2 heures paraissent à la foule comme si c'était 15 minutes. On se fatigue pas de l'entendre. Faut dire qu'il a beaucoup le sens de l'humour. Il fait rire les gens aussi. Un jour, dans la cathédrale de Moncton, au Nouveau-Brunswick, à l'ouverture d'une retraite, il parle 2 heures et demie. Oh, 2 heures et demie! Le curé est complètement aux abois. Le curé se dit, hey, en pleurant, « C'est un désastre, ma retraite est manquée, je connais mes gens, ils ne reviendront plus, ils seront pas là demain. » Or, le lendemain, c'est plein à craquer. Et jusqu'au dimanche suivant, la foule grossit, toute la semaine, elle s'accumule jusque sur le perron de l'église et même dans la rue. Elle vient de tous les coins de la ville de Moncton et même des campagnes environnantes. Et les vieux du Nouveau-Brunswick racontent, paraît-il, encore ce prodige qu'ils tiennent de leurs parents. Il va sans dire que ce prêtre au cœur de feu est mis à contribution par toutes les grandes causes de l'Église. Quand Mgr Paul-Eugène Roy a lancé sa célèbre croisade de tempérance, il requiert évidemment les services du Père Lelièvre. Alors, le Père Lelièvre s'engage dans la prédication des retraites tout en conservant son pied à terre à Saint-Sauveur, à Québec, au milieu de ses ouvriers qu'il n'abandonnera jamais. Quand on apprend chez les curés que le fameux père Victor Lelièvre est devenu prédicateur ambulant, c'est une ruée pour l'avoir et partout dans les villes comme dans les campagnes, on voit des églises bondées puis des conversions retentissantes. Son passage de quelques jours dans une paroisse déclenche un réveil spirituel dans tout le canton. Et ces conversions sont définitives, pour la plupart. Les prédicateurs qui passent 15 ou 20 ans plus tard sur ses traces dans les mêmes régions s'entendent dire combien de fois, avec la plus belle simplicité du monde, « Mon révérend père, autrefois j'étais un pécheur, mais il y a tant d'années, j'ai été à confesse au père Lelièvre, et alors ma mauvaise vie a pris chance, c'est fini. » Fini. Alors de cet homme de Dieu émane un fluide, on dirait surnaturel, quoi. Sa seule apparition établie comme un courant divin, oui, un courant d'état de grâce, si vous voulez, un courant de contrition parfaite. Les gens disent, il nous prêche le vrai bon Dieu, celui qui aime, qui console et qui attire. Le Sacré-Cœur au bras tendu qui appelle les pauvres pécheurs en disant « Venez tous à moi ». Et pourtant, le grand rayonnement de l'apôtre du Sacré-Cœur ne fait que commencer. Si le père Victor Lelièvre est l'idole des foules au Québec, il est aussi l'ami particulier de quelques-uns. Et ces âmes-là, il les a vite conduites dans le chemin de la lumière puis de la ferveur, il en fait des saints. Oui, dans ses contacts intimes, privément, seul à seul, à son bureau ou au parloir, le père Lelièvre apporte le même souci surnaturel et le même zèle à mettre Dieu dans les cœurs. Comme le Sacré-Cœur, son divin maître, il s'entoure d'apôtres laïcs qu'il forme à son image et à qui il insuffle le meilleur de lui-même. Le groupe s'appelle le Comité du Sacré-Cœur. Le père Lelièvre réunit à part, disons, cette 60aine de disciples, 60 personnes très dévouées. Il leur parle, il les reçoit en direction, puis il s'applique à purifier leur conscience par toutes sortes de trucs et de méthodes très, très, très à propos et très intelligents et très sérieux en même temps. Il leur inculque le sens de la prière, puis du zèle. Il dit à l'un d'eux, un débutant, « Mon jeune ami, pour en finir avec ton défaut, et pour rester dans notre groupe, il te faut réciter ton chapelet tous les jours. » Un mois plus tard, il ajoute, « Mais ça va bien, mon gars, ça va bien. Mais ça irait mieux encore si tu disais deux chapelets au lieu d'un. » Alors, un mois après, le père exige 3 chapelets, puis la communion fréquente, puis la messe quotidienne, puis ensuite il initie son homme au sacrifice, puis enfin il l'envoie à la conquête d'un copain non pratiquant, puis ainsi, de fil en aiguille, il en fait un véritable apôtre. C'est rien de surprenant dans tout ça, au fond. Il n'y a rien de surprenant. Cette technique à toute épreuve, le père Lelièvre ne l'invente pas. C'est la technique de Jésus-Christ, hein? Qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ? On trouve ça dans Saint Marc. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, en somme, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et ce comité du Sacré-Cœur, après l'avoir dressé comme on dresse un bataillon d'élite, bien, il lui confie toutes sortes de tâches. C'est incroyable. Il les envoie deux à deux, comme Jésus envoyait les siens, à des besognes de conversion les plus audacieuses et souvent même les plus périlleuses. Et c'est avec eux qu'il fonde la plus grande œuvre de sa vie, les retraites fermées, ouvrières. Et les plus âgés se souviennent de cette fondation qui s'installe au tout début dans le village de Saint-Augustin de Portneuf. Au cours de l'été, l'école des garçons est vide et on la tourne en maison de retraite. Et tout le village coopère, les femmes, les hommes se font un honneur de servir l'œuvre en faisant gratuitement la cuisine, la vaisselle, les lits et tout le ménage de la maison. Et de ce nid de piété sortent à toute heure des bruits de prières et de cantiques. Et la voix du Père Lelièvre, par les fenêtres ouvertes, bien, elle résonne jusque sur la place de l'église de Saint-Augustin. Et les groupes de personnes muettes sous les arbres viennent cueillir, on pourrait dire, des bouts de sermon. Et cette expérience de Saint-Augustin est concluante, et l'on permet au Père Lelièvre d'avoir une maison bien à lui, de l'autre côté de la rivière Saint-Charles, et la maison n'est pas bâtie tout de suite. Et pour plusieurs années, le Père Lelièvre opère son œuvre de salut dans les quatre murs d'une ancienne écurie. Il aime à dire, en recevant un visiteur, « Vois-tu, ici c'est ma chambre. Auparavant, il y avait un cheval. » J'y ai mis un lièvre et tout cela devint, au cours des ans, la grande institution de Jésus ouvrier, une maison de retraite de 60 chambres et plus, où le Père Lelièvre a vécu le reste de sa vie, où il est mort saintement en 1956 à l'âge de 80 ans, le 29 novembre. Écoutons maintenant encore une œuvre d'orgue de Marcel Dupré. Le Père Victor Lelièvre était un homme bien particulier, c'était un homme original. Et les originalités du Père Lelièvre, comme le dit si bien le Père Louis-Marie Parent, oblat de Marie Paculée, dans son gros livre intitulé « Victor Lelièvre, un homme branché sur le Sacré-Cœur », il dit « Les originalités du Père Lelièvre sont difficiles à expliquer. Ben, il y avait deux hommes en lui, l'homme spirituel et l'homme démuni de tout. Comme apôtre, il transcende. Comme homme, il est pitoyable. Il arrive parfois que, coup sur coup, ces deux personnalités se succèdent, ce qui donne des situations cocasses et même hilarantes. Son humour subi le rendait intéressant. Rares sont les prédicateurs populaires qui ont eu l'ascendant du Père Lelièvre sur les foules, en les faisant rire et se plier en deux, et en allant chercher leurs émotions les plus vives, remplissant les yeux de toutes les larmes de leur corps, dit le Père Parent. Et le Père Parent termine en disant, le Père Lelièvre est un grand charismatique. Ses charismes sont étonnants. Je dirais parfois bouleversant. Au début, ses instructions, d'une longueur interminable, on pouvait le trouver fatigant, même superficiel, mais il jouait avec les textes de l'Évangile comme un virtuose sur le clavier de son orgue. Toute sa sensibilité passait dans les textes de l'Évangile, et il jouait littéralement avec les sentiments de son auditoire. Il a été d'une extrême puissance. Par ailleurs, personne dans sa vie n'a rencontré un homme aussi démuni, et ses gaucheries dépassent largement le rayon des distractions. Par la suite, le Père Parent se permet de raconter des choses qui nous font parfois un peu de chagrin, mais qui nous le font aimer, ce Père Lelièvre, parce qu'on comprend que ce saint, comme on prétend qu'il était, on dit qu'il était un saint, les saints ont parfois des défauts. Bien oui. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'en a pas. Et la Sainte Vierge. Jésus-Christ a donné son nom à cette maison, Jésus ouvrier, que fonde le Père Lelièvre à Québec, où je suis allé souvent avec mon fils dans l'espoir de le guérir de tous ses problèmes et de me guérir moi-même. Il s'était guéri un soir, mais ça n'a pas duré. Car c'est extraordinaire, Jésus-Ouvrier, l'action de Jésus-Ouvrier, cette maison. Ça devient le grand filet de ce pêcheur d'hommes qu'est le Père Lelièvre. Le Père Lelièvre sort de temps en temps en paroisse dans Québec et ses alentours pour inviter les retraitants à venir. Ses apôtres laïcs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ses amis, les curés de partout, font le reste de la besogne. Puis ils remplissent la maison de renouveau spirituel. Tous les retraitants sont invités à écrire leurs impressions dans un livre. C'est assez étonnant, c'est un livre qui flâne sur la table de leur chambre. Et ça forme petit à petit des dizaines de milliers de documents anonymes qu'il est défendu de signer, qui sont écrits tantôt par un professeur qui a une bonne écriture, tantôt par un simple laboureur qui écrit plus ou moins bien, mais qui est peut-être encore plus touchant. Et tous ces écrits racontent les grâces reçues lors de leur séjour dans cette maison bénie de Jésus ouvrier. Les joies surnaturelles éprouvées, la paix de la conscience retrouvée, la joie du Seigneur que l'on a savourée, ou l'âme qui s'est levée, dressée debout, et le cœur content. En un mot, on retrouve dans ces textes la présence de Dieu, qui est perçue au contact du Père Lelièvre et de ses auxiliaires, prêtres et laïcs. Ils sont toujours très nombreux là-bas. Un que j'aimais beaucoup, je sais pas si je retrouvais son nom, le Père Réal Boissonneau, un oblat de Marie Immaculée. Que de bien il a fait à mon fils Guy. Que de bien ce Père Boissonneau a fait. Extraordinaire prêtre. Après des années de ce travail apostolique et absolument fantastique, rien d'étonnant, évidemment, de voir dans les rues de Québec, répondant comme un troupeau docile, on peut dire, à la voix de son pasteur, le Père Lelièvre. On voit une foule de plus de 100 000 hommes en la soirée de la fête du Sacré-Cœur, dit-on. Ils sont tous là. Ses amis, les convertis, les guéris spirituels, les rétablis en grâce. Ils vont en procession. Ils chantent jusqu'au parc Victoria où les attendent 100 prêtres qui vont les confesser et qui vont distribuer la communion, les hosties. Car des adorateurs et des habitués de leur sainte nocturne du mois dont je vous ai parlé, il s'en trouve maintenant 200 ou 300 par paroisse. 200 ou 300 par paroisse. Non seulement la ville de Québec, mais presque tout le Québec emboîte le pas dans le grand réveil religieux qui secoue toute notre nation du Québec. La famille du pêcheur d'hommes est presque sans limite. Le pêcheur d'hommes, ben c'est le Père Lelièvre, évidemment. Il me faut mentionner encore, et c'est là un autre de ses charismes, que le Père Lelièvre, c'est un recruteur de vocation. Son flair est impeccable. En croisant sur le chemin, comme ça, de la vie, un jeune homme, il lui dit du tic au tac, comme Jésus, « Viens, suis-moi. » Et le jeune réplique, « Mais mon père, je suis sans instruction, sans argent, puis voyez bien mon âge. » Et le père Lelièvre lui répond, « J'ai pensé à tout cela, mon gars. Viens, mon petit, viens, suis-moi. » Dieu te destine au sacerdoce et je te trouverai un bienfaiteur, un professeur, une maison. Viens avec moi. Et les bienfaiteurs du Père Lelièvre sont nombreux et généreux. D'ailleurs, plus ils donnent, ces gens-là, plus ils sont riches. À l'ombre de Jésus-Christ, de cette maison, et sous la protection du Père, de Jésus-ouvrier, à l'ombre de Jésus-ouvrier et sous la protection donc du Père Lelièvre, il y a bientôt deux belles maisons pour ses étudiants futurs prêtres. Faut pas croire qu'il est avare et qu'il recrute seulement pour la communauté des oblats. Au contraire, chaque recrue a son caractère, son tempérament, et puis le Père Lelièvre va respecter ça. Hein? Il va lui dire, mettons, un type, « Maintenant, tu es prêt, mon ami? Eh bien, va-t'en chez les trappistes. » Et toi, tu rentres chez les jésuites. Puis toi, oui, reste au clergé de ton diocèse. Parce que selon lui, on ne détruit pas ce que Dieu a bâti. Et à la fin de sa vie, cette couronne de vocation sacerdotale recrutée à l'Église dépasse, selon certains, la 60aine et même 80. Puis il y a aussi toutes les vocations des religieux et des religieuses, les religieux non-prêtres et les religieuses, et aussi des vocations de laïcs qu'il a su susciter en très grand nombre. Quel prêtre peut se vanter d'avoir autant de fils spirituels? Et finalement, le Père Lelièvre est âgé. On le trouve à Jésus-ouvrier, où il prêche 4 ou 5 fois par jour, régulièrement. mais on le rencontre aussi à l'extérieur. Il prêche fréquemment à la radio aussi. Et chaque année, des centaines de lettres lui en apportent des échos, le chanceux. Hein? C'est-à-dire des « Merci, mon père. Votre discours d'hier m'a converti. » Et ces lettres lui font l'enthousiasme, le saisissent et l'encouragent. On le demande un jour en hâte à Victoriaville. On dit « Venez vite, père Lelièvre. Le malaise règne. Les ouvriers ont refusé de rentrer au travail ce matin. » Alors il prend un taxi, il se rend là, et puis en récitant le rosaire, en évitant Notre-Dame-du-Cap, il essaie d'analyser la question de ces 3000 hommes qui sont en fureur, qui sont des ouvriers sans doute mal payés et maltraités. Et il leur parle, et 5 minutes plus tard, on n'entend plus que sa voix, qui est puissante, retentissante, et qui parle dans le haut-parleur d'occasion, puis leur dit « Mes bons amis, les ouvriers, écoutez-moi, je suis le père Lelièvre, et la foule se tait, parce qu'on le connaît. » Elle se rapproche, elle se suspend ses lèvres, il leur parle durant 3 heures. Tout y passe. Le travail et la justice. Le foyer, leurs femmes, leurs responsabilités, leurs enfants, leurs ambitions légitimes, de justice ouvrière, mais aussi leur devoir d'État, et par-dessus tout, le Sacré-Cœur, là-haut, au bras tendu. Et finalement, certains d'entre eux pleurent un peu, mais la foule rit surtout. La foule applaudit, elle cesse d'être crispée et plus ou moins enragée, elle se détend, elle raisonne. Elle espère vraiment une entente possible avec les patrons. Et finalement, elle part en procession vers l'église, où une soirée de prière les attend, et le lendemain, tout s'arrange, et chacun rentre paisiblement à la manufacture. Espérons qu'ils ont eu ce qu'ils demandaient. Pendant qu'à Québec, on bâtissait son Jésus ouvrier, ce centre merveilleux où je suis allé plusieurs fois, et que je vous recommande, c'est sûr, le boulevard Lelièvre, d'ailleurs, à Québec. Hein? C'est facile d'accès quand on arrive de Montréal. Et alors, il n'a momentanément aucun ouvrage précis au Canada, le père Lelièvre, pendant qu'on bâtit ça. Et il décide, à la suggestion de bien des gens d'ailleurs, d'aller faire un petit tour en France, son pays d'origine. Il va y rester 1 an, c'est comme une année sabbatique. Un autre, évidemment, peut-être, aurait pu se promener, tout simplement, se reposer, mais lui, non. Non, la tournée du père Lelièvre devient encore une espèce de randonnée apostolique. Il rencontre avec succès les communistes de la banlieue rouge de Paris. Il se présente dans les milieux les plus revêches, chez des gens qu'on traite, comme il dit lui-même, d'impies et de non-pratiquants. Les gens disent entre 2 mots plus ou moins grossiers, « Bah, allons entendre ce sacré curé du Canada. Paraît qu'il est dépareillé. » Et tous ces gens simples accourent. Le père Lelièvre est invité à parler donc à des communistes dans un entrepôt quelconque. On lui présente comme tribune un baril d'essence. Et croyez-le, croyez-le pas, pendant plus d'une heure, il réussit à amédouer cette centaine, comme il dit, de braves cœurs. Les communistes enragés contre l'Église. Tour à tour, il les fait rire, à gorge déployée. Il va jusqu'à les faire pleurer, réfléchir et rentrer au fond d'eux-mêmes. Et donc, au bout d'une heure, Bécry monte de cette foule surchauffée. « Eh, assez! Assez! » Alors, le père Lelièvre croit avoir manqué son coup, mais non. On voulait seulement le laisser reposer, lui servir un bon coup de rouge et le lancer à nouveau. Mais finalement, on passe le chapeau. Le père a beau s'objecter, il veut pas. Il lui faut prendre les 210 francs de ses ouvriers emballés et enthousiastes. Et ils lui disent quelque chose, c'est bien sympathique de leur part. Ils leur disent, écoutez ça, ils disent, gardez ces francs pour vous. Et faites-nous faire un moule de curé comme vous. C'est plein d'humour. Les églises en France, habituellement vides, se comblent. Et la parole de Dieu est annoncée par le Père Lelièvre à tous ces pauvres. Et là comme ailleurs, il y a de grosses conversions qui s'opèrent au point que plusieurs évêques de France font pétition aux autorités religieuses canadiennes pour garder ce prêtre français chez eux définitivement. Mais non, il revient au Québec. Il revient fatigué, mais d'une fatigue inépuisable. Il a 76 ans. On le trouve encore en chair à l'oratoire Saint-Joseph, à Montréal, donnant ses 7 sermons le même dimanche. Et après tant de besognes accomplies, il courbe sous le poids des ans et des fatigues cumulées. Il se retire dans le silence de sa cellule pour préparer sa mort. Et loin de s'attribuer la moindre gloire, il demande à son confesseur et à ses intimes de bien prier pour lui. Et il leur confie humblement, écoutez bien, c'est beau, j'ai peur de rencontrer le jugement de Dieu. J'ai tellement rien fait de bon dans ma pauvre vie. On peut imaginer facilement les sommes fabuleuses d'argent qui sont passées par les mains du Père Lelièvre. Mais son dernier supérieur a dit de lui qu'il était le plus pauvre des oblats, qu'on aurait pu déménager tous ses biens en 5 minutes, il possédait rien. Non, il donnait tout. On pouvait lui donner 1 000 $, il n'en gardait rien. Il avait, il faut bien le reconnaître, une piété profonde, une humilité énorme, grande, superbe, tout en étant un peu surprenant par sa franchise, sa droiture d'intention. Mais sa charité recouvrait tout ça, son oubli de soi, son renoncement aussi, puis son respect pour l'autorité et sa bonté sans limite. Ça, il faut le reconnaître. Il avait un caractère parfois un peu dur, mais c'est la bonté qui revenait toujours recouvrir tout ça. Le Père Lelièvre ne s'attribuait aucune de ses réussites, et il en rendait le crédit au Sacré-Cœur, dont il se disait le simple instrument. Il était toujours fidèle à ses engagements, et surtout, il pratiquait ce qu'il enseignait. Il était bon, tendre, généreux envers les pauvres. Et dans son humilité, il reconnaissait ses limites avec la simplicité d'un enfant, quoi. Puis il savait pardonner. Oui, il savait pardonner. Il a été saisi, quoi, par le Christ, comme saint Paul, hein, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Il a généreusement répondu à une vocation qu'il n'avait pas choisie, mais qui souvent le dépassait, imprégné d'évangile. C'était un homme de foi, de prière. Puis il a été pour une foule innombrable de chemins qui conduit à Dieu. Et c'est donc le 29 novembre, c'est l'anniversaire après-demain, 1956, que le Père Lelièvre est mort d'artériosclérose, surtout cérébrale, 80 ans, après un déclin de près de 3 ans. Au-dessus de son lit, on est frappé de lire, après sa mort, écrit sur le mur, cette parole extraite de l'Évangile de Saint Jean, cette parole de Jésus, « L'œuvre que vous m'avez chargé d'accomplir, je l'ai achevée. » Cette maison de Jésus-ouvrier, qu'on appelle souvent un cénacle, est devenue, à la nouvelle de sa mort, un point de convergence, évidemment, de toute la ville de Québec, ville à l'époque fort croyante, et qui se souvient, mais malheureusement, paraît-il qu'il n'y a presque plus de vocation à Québec, même aucune en toute une période d'un an, aucune vocation. Au moins 20 000 personnes, au moins, hein, défilent devant sa dépouille. Là, à Jésus-Ouvrier, et aussi à l'église Saint-Sauveur. Le long défilé qui l'escorte, ça ressemble à une procession du Sacré-Cœur des beaux jours de juin, jadis, dans la fête du Sacré-Cœur, c'est en juin. Et après les 2 services contributifs du service funérailles, pour répondre au désir des foules, parce qu'il y a tellement de monde, le corps est reconduit à la maison de Jésus-Ouvrier, où il repose sous la croix du petit cimetière. On peut citer cette parole qu'on trouve dans Saint-Luc, des disciples d'Emmaüs. Notre cœur devenait brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Et c'est ce que ressentent ces gens qui assistent aux funérailles. Eux qui ont cheminé avec le Père Lelièvre, ils se disent ensemble, plusieurs d'entre eux, « Un saint a passé parmi nous. » Et ses intimes n'en doutaient pas, notamment les membres du comité du Sacré-Cœur qui le connaissaient et le comprenaient fort bien. Unanimement, ils répondent « oui » à cette parole qu'il avait souvent à la bouche, « Soyez parfaits. » Comme votre Père céleste est parfait. Si on juge un arbre à ses fruits, comment hésiter à reconnaître comme un saint cet homme étonnant, tout d'une pièce. Au fond, la sainteté, elle n'existe que dans l'incarné. Il faut bien être incarné avec le poids de nos défauts, de nos faiblesses. Et les saints sont pétris de la même argile que nous. Questionnés à brûle-pourpoint, le Père Lelièvre avouait qu'il n'avait pas passé plus de 5 minutes par jour sans penser à Dieu. La sainteté du Père Lelièvre était vraiment une sainteté qui touchait la terre, on peut dire. Il a adapté ses pas, finalement, aux gens ordinaires. Il a parlé notre langage, notre langue québécoise, avec ses tournures, sa simplicité, son sens direct des choses. Il s'est sanctifié en combattant ses propres défauts, qui étaient pour lui comme des pièces d'identité de sa condition humaine. Ça peut faire écran parfois à notre foi, justement, les quelques défauts qu'ont certains saints. L'un de ses supérieurs avouait, c'est dur d'avoir un saint dans la maison. Beaucoup de supérieurs disent ça, on dit. Un jour, il ajoutait, moi, je remplis les cruches, et lui, il fait des miracles. Bien oui, on attribue au Père Lelièvre, en particulier, la guérison d'un mourant, Napoléon Robitaille, qui va vivre 47 autres années. Et seuls les saints peuvent produire des saints, dit-on. Parmi ses dirigés, le Père Lelièvre en a engendré plusieurs. Son intense rayonnement spirituel, puis les conversions qu'il opérait en chaîne, est-ce que ce serait pas ça des miracles, finalement, éclatants, les plus beaux? On touche à l'impondérable action de la grâce, là, hein? C'est difficile à traduire en chiffres. Il est indéniable, de toute façon, que son témoignage de vie est toujours percutant. Un universitaire a déjà dit, si les saints existent, le Père Lelièvre en est un cas authentique. Son efficacité échappait à l'ordre naturel. Tiré du groupe des humains, il était comme le flambeau sur le candélabre. Heureusement, l'Église n'attend pas que les humains soient sans défaut pour reconnaître leur sainteté. C'est ici chez nous que le Père Victor Lelièvre, oblat de Marie Immaculée, a vécu. Oui, les Québécois sont dépositaires de son souvenir, on peut dire. Nous avons été témoins ici au Québec et nous avons été bénéficiaires aussi de la grâce transformante qui accompagnait sa parole. Faut pas oublier cette parole merveilleuse du cardinal Roger Tchégaray, qui disait le 3 décembre 1995, à l'occasion de la canonisation du fondateur des Oblats de Marie Immaculée, Saint Eugène de Masneau, dont je vous ai déjà parlé, « Si l'Église n'offre pas de saints, le monde va se créer des idoles. Un nouveau saint ranime notre foi, remet en question notre échelle de valeur pour que les pauvres soient évangélisés. » On peut toujours se souvenir du Père Lelièvre dans nos prières, en l'invoquant, en lui demandant de nous aider à travers nos misères, nos incertitudes, nos inquiétudes, et qu'il nous obtienne de devenir, à son exemple, des gens d'un grand courage, d'une grande foi et d'une grande humilité dans le travail qui peut nous être demandé de toucher le cœur de quelqu'un qui nous entoure et de transformer et d'aider à trouver la joie chez tous les gens que l'on connaît. Cette joie, c'est de connaître l'amour du cœur de Jésus pour nous, qui est l'amour même de Dieu notre Père, cet amour qui est quelqu'un qui est l'Esprit Saint.